Mark Twain, La caravelle de Christophe Colomb. De Noé à Christophe Colomb, l'architecture navale subit quelques modifications et passa d'une médiocrité ineffable à une condition un peu moins précaire. J'ai lu quelque part, ou je ne sais quand, qu'un des bateaux de Colomb jaugeait 90 tonnes. En comparant ce navire au moderne lévrier de l'océan, on peut se faire une idée de la petitesse des barques espagnoles et convenir qu'elles seraient mal outillées pour soutenir de nos jours la concurrence et transporter des passagers à travers l'Atlantique. Il en faudrait 74 pour représenter le tonnage du Havel et avaler une de ses fournées. Autant que je m'en souviens, il leur fallut 10 semaines pour faire la traversée. Avec nos idées actuelles, ce serait peu goûté comme vitesse de marche. La caravelle avait probablement un capitaine, un second, 4 matelots et un mousse pour tout équipage. L'équipage d'un lévrier moderne comprend 250 personnes. Le navire de Christophe Colomb étant petit et très vieux, nous pouvons à coup sûr en déduire certains détails secondaires qui ont échappé à l'histoire. Par exemple, nous doutons un peu qu'avec ses faibles dimensions, il devait rouler, tanguer et faire bouchon en mer calme pour ne plus poser que sur la tête ou sur la queue et se coucher les oreilles dans l'eau au moindre coup de mer. Nous supposons que les lames devaient s'y promener comme chez elles et balayer son pont de l'avant à l'arrière. Que les violons étaient installés à table en permanence, ce qui n'empêchait pas la soupe des hommes de passer plus souvent sur leurs genoux que dans leur estomac. Que la salle à manger pouvait avoir 10 pieds sur 7, était sombre, étouffée, et puant l'huile à plein nez. Et que la seule cabine du bord, grande comme une tombe, contenait une rangée de 2 ou 3 couchettes étroites et étranglées, comme des cercueils, et qu'une fois la lumière éteinte, il y faisait une obscurité lugubre et si compacte qu'on aurait pu mordre dedans et la mâcher comme un morceau de caoutchouc. Nous en dédirons encore qu'on ne pouvait se promener que sur le pont supérieur, du gaillard d'arrière, car le bateau était taillé comme un roulier au talon. En réalité, cette promenade ne comportait qu'une piste de colza pleine de long sur 3 de large, car tout le reste des navires était encombré de cardages et inondé par les flots. Tout cela n'est pas douteux. Si nous considérons que ce petit bateau était un vieux rafiot, il faut nous rendre à certaines autres évidences. Par exemple, il était infesté de rats et de cancrelats. Par les gros temps, il y avait autant de jeux dans les jointures qu'entre les doigts de votre main, et il prenait l'eau comme un panier. Qui dit voie d'eau, dit eau dans la cale. Or, de l'eau dans la cale, c'est la mort sans phrase, l'asphyxie à bref délai, provoquée par une odeur à côté de laquelle un fromage de Limbourg est un parfum exquis. D'après ces données rigoureusement exactes, nous pouvons suffisamment nous figurer la vie journalière du grand explorateur. De grand matin, il accomplissait ses dévotions devant le reliquaire de la Vierge. Sur le coup de 8 heures, il faisait son apparition sur le pont promenade de Gaillard d'arrière. S'il faisait froid, il montait tout bardé de fer, depuis le casque à plumes jusqu'à ses talons éperonnés, revêtu de l'armure damasquinée d'arabesque en or qu'il avait pris soin de chauffer auparavant au feu de la galère. S'il faisait chaud, il portait le costume ordinaire de la marine de l'époque, un grand chapeau rabattu en velours bleu avec un panache ondoyant de plumes d'autruche blanches, retenu par une agrafe resplendissante de diamants et d'émeraudes, un pourpoint de velours vert tout brodé d'or, avec manche à crevés cramoisis, une large collerette et des manchettes de dentelle riches et souples, des chaussures de velours rose avec de superbes jarretières en ruban de brocart jaune, des bas de soie gris-perle élégamment brodés, des brodequins citron ou chevreau morné dont les tiges en entonnoir se rabattent pour faire valoir la coquetterie du bas gris-perle. D'amples gantelets en peau d'hérétique taillés par la Sainte Inquisition dans la peau veloutée d'une grande dame, une rapière au fourneau incrusté de pierreries, retenue par un large baudrier rehaussé de rubis et de saphirs. Christophe Colomb faisait les 100 pas en méditant. Il notait l'aspect du ciel et la vitesse du vent. Il jetait un regard inquisiteur sur les herbes flottantes et les autres indices de la terre prochaine. Puis, par manière de passe-temps, il gourmandait l'homme de bar. Il sortait de sa poche un faux canif, histoire de s'entretenir la main en le faisant tenir sur son grabot, son tour classique. De temps en temps, il jetait une amarre à un matelot en train de se noyer par le gaillard d'arrière. Le reste de son quart, il bâillait et s'étirait en jurant qu'il ne recommencerait pas ce voyage, fût-ce pour découvrir 6 Amériques. Car tel était Colomb dans sa simplicité naturelle, quand il ne posait pas pour la galerie. À 9 heures, il faisait le point et déclarait avec aplomb que son brave navire avait fait 300 yards en 24 heures, que désormais il était certain de gagner la poule. Tout un chacun peut gagner la poule quand personne d'autre que lui ne l'a le droit de toucher à la direction du bateau. L'amiral déjeunait tout seul, en grande cérémonie, jambon, haricots et gin. À 9 heures, il dînait seul, en grande cérémonie, jambon, haricots, gin. À 10 heures, il soupait seul, en grande cérémonie, jambon, haricots et gin. À 11 heures du soir, il prenait son encas de nuit, seul et en grande cérémonie, jambon, haricots et gin. Pendant aucun de ces festins, il n'y avait de musique. L'orchestre à bord est d'introduction moderne. Après son dernier repas, l'amiral remerciait le ciel de toutes ses bénédictions, avec peut-être plus de gratitude qu'elles n'en valent la peine. Puis il dépouillait ses soyeuses splendeurs, ou en ferblanterie dorée, et s'introduisait dans son petit cercueil. Là, après avoir soufflé son lumignon pour odorant, peu odorant, il commençait à se rafraîchir les poumons en aspirant par petites bouffées alternativement l'huile rance et l'eau de cale. Puis sa respiration se faisait plus sonore, il ronflait, et alors rase et cancrelade surgir par brigades, divisions et corps d'armée pour danser en rond autour de lui. Telle était la vie journalière du grand explorateur dans son saladier aquatique pendant les quelques semaines qui ont fait de lui un grand homme. Il me semble que la différence entre son navire si confortable et nos bateaux actuels n'échappent à aucun œil. À son retour, nous dit l'histoire, le roi d'Espagne, émerveillé, lui dit « Ce navire me paraît faire, oh, quelque peu. Réellement, faisait-il autant que cela ?»« Oh, sire, jugez-en. Pendant ma traversée, j'ai vu monter 16 fois tout l'océan Atlantique. » C'est le chiffre donné par le général Horace Porter. D'autres personnes sont autorisées, disent 15 fois seulement. Il est évident que les contrastes entre ce bateau et celui d'où j'écris cet article sont remarquables à plus d'un point de vue. Prenons le chapitre de la décoration, par exemple. En regardant de nouveau autour de moi, hier et aujourd'hui, j'ai noté plusieurs détails qui n'existent certainement pas à bord du navire de colons, ou au moins qui laissaient fort à désirer. Voici les portes du grand salon en bon chêne ciré de 3 pouces d'épaisseur. Voici les vestibules avec aux murs, aux portes et au plafond des panneaux de bois, durs également cirés, tantôt clairs, tantôt foncés, d'une même série élégante et délicate, d'un ajustage rigoureusement hermétique. De belles mosaïques en carreaux bleus y sont incrustées. Quelques-unes de ces mosaïques ne comprennent pas moins de 60 carreaux. Et l'assemblage de ces carreaux est parfait. Voilà bien de hardies innovations. On n'aurait pas eu craindre qu'au premier jour de gros mauvais temps, ces carreaux ne vinssent à se décoller et à tomber en miettes. Eh bien non, il n'en est rien. Ceci est la preuve évidente que l'art de la menuiserie n'a pas mal progressé depuis le temps primitif où les bateaux étaient si mal ficelés qu'à la moindre poussée d'une mer un peu forte, toutes les portes se mettaient à battre. Passons à la salle à manger. Les murs en sont ornés de gaies tapisseries, et au plafond, je vois des fresques peintes à l'huile. Dans les autres endroits de réunion, voici de grands panneaux en cuir de cordoue repoussé, avec dessins où l'on n'a ménagé ni l'or ni le bronze. Partout, je découvre de riches assemblages de couleurs. De la couleur partout, partout de la couleur. Tous les tons, toutes les teintes, toutes les variétés de couleurs. Il en résulte que le bateau est clair et gai à l'œil, et que cette gaieté vous gagne l'âme en vous rendant joyeux. Pour bien apprécier la profonde impression que vous donne cette radieuse débauche de couleurs, il faut se tenir dehors la nuit, dans l'épaisseur des ténèbres et la pluie, et regarder tout cela par un hublot, à la splendeur aveuglante de l'éclairage électrique. Les vieux navires étaient sombres, laids comme aucune grâce, d'une tristesse affreusement déprimante. Ils vous poussaient à un spleen inévitable. L'idée moderne est la bonne. Entourer les passagers de confort, de luxe et d'une profusion de couleurs agréables à l'œil. Dans ces conditions, vous êtes presque tenté de dire qu'on ne se trouve nulle part mieux qu'à bord, sauf peut-être chez soi.